Car dans un bocal, manque ton pays natal. Mon horizon pâle, bancal que des verticales. Comme au carnaval, j'imite les étoiles. Comme couverte de pétales, instinct animal, ancestral, camoufler le mal. Mais je veux te parler et me confier, verser les mots. Je veux te parler et respirer. Y'en a marre d'avoir le carreau, me délivrer et m'évader. Laisser les mots me révéler et m'élever. Y'en a marre d'avoir le cœur barré.
Et elle a délivré ses idéaux, révélé ses idéaux. Une belle et magnifique artiste franco-tunisienne, auteure, compositrice, interprète, actrice aussi. Bonjour Nawel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation rayonnante comme vous êtes. On est ravis de vous avoir sur les ondes de Radio Orient. Vous participez dernièrement dans le festival Arabofolie de l'Institut du Monde Arabe. Oui. Bien sûr, ces derniers jours, ils ont décliné quelques événements à cause du dispositif Covid. Mais oui. On va parler aujourd'hui de Nawel Ben Karaïm. Ses débuts, bien sûr, vous avez un itinéraire très riche depuis l'enfance, si j'ai bien compris. J'ai écouté un petit peu votre travail. Vous avez travaillé avec pas mal d'artistes, aussi bien maghrébins qu'orientaux, enfin occidentaux aussi. Les débuts de Nawel Ben Karaïm, dans le chant, dans le théâtre aussi.
Ouais. Eh ben, écoutez, oui, les débuts, ça remonte aux pratiques amateurs, à l'enfance. J'ai fait beaucoup de théâtre en Tunisie, dans un atelier qui était par hasard présent dans ma vie, en fait, qui m'a donné le goût de la scène, le goût de transmettre des émotions.
De quel côté de la Tunisie, Nawel?
J'ai grandi à Denden.
Denden, oui.
À côté du Bardo.
C'est pour ça que vous nous avez choisi une chanson, un titre qui est spécial pour votre city, Denden City.
Denden City.
Oui.
Exactement.
Et donc.
Et donc
cette petite ville là vous a initié à tout ce qui est artistique, en commençant par le théâtre.
Voilà, bah c'est vrai que dans la ville de Tunis, il y avait quelquefois des événements auxquels mes parents m'amenaient. Il n'y en avait pas beaucoup, mais si vous voulez, le fait qu'il y ait moins d'offres culturelles qu'en France, le peu qu'il y avait, en général, on était au courant. Je sais pas, il y avait quelque chose qui faisait que j'ai été assez vite vraiment attachée à, on va dire, à l'art. Mm-hmm. Même si j'avais pas des parents artistes, je sais que j'adorais aller au spectacle. Je pouvais pas le projeter dans ma vie comme un métier parce que je connaissais pas des gens assez près qui en vivaient, je pensais pas que c'était un métier, mais par contre, je voyais bien que ça avait beaucoup de sens pour moi. Mmh. Et puis après, quand j'ai grandi, puis quand je suis venue en France, j'ai commencé à faire des études de lettres, donc j'étais toujours connectée à l'écriture, à la créativité, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas envie d'étudier les lettres, j'avais envie d'être du côté des créatifs, on va dire. Mmh. Et là, j'ai monté un premier groupe de musique.
Eh ben oui, on va en parler juste après, mais dans ses débuts, généralement, les artistes ont toujours quelqu'un qui a actionné cette envie ou cette passion au départ. Est-ce que ça s'est passé dans votre famille? Est-ce que vous avez dans votre famille des gens qui aiment bien le théâtre, le chant, etc., qui vous ont initié à cela, ou c'est venu juste à travers ces ateliers que vous faisiez à l'époque?
Mais je pense pas qu'il y ait une seule personne pour le coup de mon côté, mais il y a eu quelques personnes. Il y a eu Hicham Rostom, qui est un grand comédien, qui était ce prof de théâtre, donc plutôt au collège. Et puis après, plus âgé, Il y a eu une rencontre assez tôt avec le réalisateur Tony Gatliff, avec qui j'ai travaillé. À ce moment-là, c'était un peu un rêve pour moi, parce que je connaissais ces films qui mêlent, qui travaillent avec l'âme gitane, qui mêlent la musique, le cinéma. Donc, il y a eu des choses comme ça qui m'ont fait un peu à un moment rendre le métier concret. Mais sinon, non, il n'y a pas eu vraiment genre un oncle qui m'aurait initié à tout truc. C'était plein de petites choses comme ça.
En tout cas, vous avez grandi en Tunisie jusqu'à l'âge de 16 ans. Vous arrivez à Paris en 2004. Vous avez chanté par-ci, par-là, donc, dans des groupes. Et puis, vous avez décidé de fonder votre groupe Cirrus. Parlez-nous de l'idée qui vous a poussé à lancer ce groupe.
En fait, c'était assez instinctif. C'est juste que j'avais besoin de retrouver une dynamique, un peu de créativité, comme je le faisais quand j'étais plus jeune, avec les ateliers une fois par semaine de théâtre. Mmh. Là, j'avais vraiment envie de trouver ce truc où on se retrouve avec des gens et on répète et après on monte un spectacle. C'était ce goût-là au début, un peu amateur, mais vraiment passionné. Mmh. Et en fait, c'était, j'avais eu des petites annonces dans Paris pour chercher des guitaristes, tout ça, puis je récupérais aussi des annonces. Et à un moment, il y avait deux guitaristes qui cherchaient une chanteuse, et puis en fait, on a répété une fois, deux fois, on s'est bien entendu, et voilà, on a monté ce premier groupe comme ça. Il y avait aussi du violon, de la darbouka, et c'était déjà un peu métissé, de manière assez instinctive. Je mélangeais déjà mes langues, l'arabe, le français, des fois des poèmes que j'écrivais, des fois des poèmes que je prenais comme ça, d'Apollinaire, des trucs que je lisais, que j'aimais bien. Des fois je disais, des fois je chantais. Donc il y avait déjà ce côté un peu, on va dire, hybride, un peu inclassable, un peu touche à tout. Et ça, c'était comme ça, un peu amateur. C'était mon premier groupe, c'est vrai. Et puis après, ça s'est professionnalisé assez vite finalement, parce que j'étais tellement motivée, je pense aussi qu'à Paris, c'est quand même une ville où on peut faire des rencontres, quoi.
Donc, plein d'ailleurs. Donc, notre cher Nawel a fait des études en littérature. Ça a quand même aidé par la suite pour la composition des chansons.
Oui et non. Oui, peut-être, parce que du coup, c'est vrai que c'était un circuit qui me faisait lire beaucoup. Donc, de toute façon, le goût des mots, il s'entretient. Donc,
assez clair.
C'est une forme de formation pour l'écriture, peut-être. Mais après, je pense que le fait d'écrire, c'est plus... c'est important de se nourrir et de lire. Donc, en ça, les études de lettres, elles peuvent aider à améliorer, à avoir du recul, des références, des choses comme ça. Mmh. Mais je pense que vraiment, le geste d'écrire... Il peut être, quand tout le monde peut écrire à partir du moment où il a le goût de ça, où il s'autorise cette liberté-là, c'est plus un endroit de silence à l'intérieur de soi où on arrive à mettre les mots sur son vie. Et je pense qu'il y a autant d'écriture que de parcours, donc c'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études de lettres qui va écrire, parce que finalement il y a beaucoup de gens qui font des études de lettres et qui étudient ceux qui écrivent mais qui n'écrivent pas eux-mêmes.
C'est clair.
Donc c'est un autre geste, je pense, celui d'être du côté de la création. Celui-là, c'est plus une nature ou une sensibilité aussi. J'ai toujours été très sensible et je pense que le propre de l'artiste ou de l'écrivain, c'est aussi d'avoir ce regard qui accepte aussi, qui les regarde en tout cas, toutes les émotions, même quand c'est difficile, même quand c'est sombre, quand c'est joyeux aussi, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est une espèce de besoin d'observer les choses et de les traduire, quoi.
En tout cas, vous maniez les mots tellement, et très souvent, enfin moi j'ai entendu, vos albums, et puis on trouve aussi un mélange des styles. Et ça vous réussit tellement bien. Et puis en plus, vous faites des duos. Vous faites aussi. Vous avez fait une chanson là dernièrement. Je sais pas, ça date de combien d'ailleurs. Vous me corrigez. Avec Samira Brahmia et pas mal d'artistes. Vous avez une forme d'engagement à travers votre chant. Est-ce que vous l'avez choisi ou c'est la vie qui vous a emmené à vous engager à travers l'art pour passer des messages?
Des messages. En effet, je pense que l'art, c'est une arme très forte parce que elle convainc les gens par l'empathie. Ce qui est beau dans une chanson, c'est que ça touche les gens. Donc notre message, il arrive par la voix du cœur. Donc c'est une voix royale et du coup, ça donne beaucoup de force au message, et du coup ça permet d'accompagner les messages d'une manière très fédératrice. Mmh. Donc je crois beaucoup en la force de l'art. Et après, il se trouve qu'en tant que femme franco-arabe, avec toutes les problématiques de cette double identité, que ce soit dans le passé, avec l'histoire coloniale qui lie ces deux continents, que ce soit ces deux cultures, que ce soit au jour d'aujourd'hui, avec tous les sujets dont on voit bien qu'il y a vite des raccourcis, vite des pensées brutales, amalgamées. Du coup, je pense qu'en effet, on est presque obligé, quand on a une parole comme ça, qui est celle de l'artiste, qui prend de la parole, qui fédère, qui est sous la lumière, on a presque le devoir d'avoir une parole qui est malgré nous politique. Être femme arabe, rien que chanter en arabe, même chanter une chanson d'amour, quand on sait dans le paysage de la chanson française, que moi, mon album, il est positionné dans le rayon de disques chansons françaises, et c'est la vérité, vu que 70% des textes sont en français, je fais des chansons, j'habite en France, je suis française aussi, mais il se trouve qu'il y a cet imaginaire nord-africain qui traverse mon travail, et rien que ce positionnement-là, malgré moi, il est politique. On a bien vu récemment, quand les gens parlaient de la langue arabe, tout de suite, ça devient... C'est comme si c'était pas une langue en soi, c'est une langue politique qui véhicule des clichés, qui véhicule des tensions. Donc le simple fait de manier cette langue-là dans son travail et dans des voies publiques et médiatiques, bah, on a l'impression qu'on est porte-parole de quelque chose. Donc de toute façon, vaut mieux en avoir conscience pour pouvoir le faire comme on veut, pour pas se faire récupérer, pour pas qu'on prenne des engagements qui sont pas les nôtres. Donc moi, ce que j'essaye de prôner toujours, c'est le fait que la parole artistique, même quand elle est politisée par le contexte ou par la vie, ça reste une parole qui est du côté de la nuance et du côté de l'émotion. C'est-à-dire que c'est pas une parole binaire. C'est-à-dire que si j'ai envie de militer d'une façon politique, je veux le faire dans une association. Mais à travers mes chansons, je peux poser un regard, je peux porter des messages, mais je veux le faire à la manière de l'artiste, avec la complexité de l'âme humaine, quoi.
En tout cas, vous en avez les capacités largement, et je pense que vos messages passent très bien. Et justement, en parlant de votre carrière, après une tournée avec le groupe Orange Blossom en 2010, vous avez entrepris un projet en solo en 2011 dans un contexte post-révolution en Tunisie. Vous êtes retourné en Tunisie, vous avez collaboré avec le collectif Anti Assault qui regroupe des artistes de la scène. Ce qu'a apporté un artiste à son pays d'origine, Nawel, vous êtes toujours en liaison avec le pays?
Bien sûr. Je pense que le pays d'origine apporte autant que l'artiste peut apporter au pays d'origine. Moi, je pense que tout point de vue nouveau, c'est une richesse. Donc, par exemple, moi, en venant en France, en me nourrissant des codes de ce qui se fait, de ce qui va être à la mode, de mes rencontres professionnelles, de mes voyages, ça va m'enrichir. Et si je l'amène en Tunisie, que je reste proche de la Tunisie, que je reviens de temps en temps prendre la parole dans des festivals, dans des médias, et ben forcément, je vais l'apporter, je vais l'infuser à la jeunesse tunisienne. Les jeunes filles, elles vont pouvoir s'identifier à moi. Donc ça va être, si elles me voient comme quelqu'un d'indépendante, là j'ai créé mon label, je reste dans une forme de créativité, de combativité, et ben j'espère que ça va inspirer aussi des filles de la génération du dessous, de dire on peut être comme ça ou autrement, elles le font à leur manière, mais en tout cas c'est une figure visible d'une femme qui prend la parole à sa manière. Et après moi, bien sûr, le pays d'origine, il m'apporte un milliard de millions de choses, parce que c'est d'autres atmosphères, c'est d'autres points de vue, c'est d'autres façons de penser les choses. Et c'est important pour moi de régulièrement revenir à cette source, quoi, en fait.
En tout cas, Nawel, c'est une joie d'échanger avec vous, et on s'en lassera pas. On aura certainement l'occasion de parler de plein de choses autour de votre travail. Juste un petit mot avant de finir, par rapport à votre nouvel album, Délivrance. Pourquoi Délivrance? Et aussi un petit mot par rapport à votre participation à Arabofolie et les jours où vous participerez, puisque le festival actuellement, il est un peu restreint à cause. Donc un petit mot par rapport à ça. Oui.
Délivrance, ça veut dire libération, ça veut dire affranchissement. Et dans cet album, je m'autorise justement à toutes mes identités multiples, à passer de la pop à des sons plus traditionnels. Je m'autorise de passer de la poésie à des choses, à du français, à de l'arabe. Voilà, je suis libérée des codes de ce que doit être un style ou un autre, de là où on doit nous attendre. Et puis c'est aussi un clin d'œil à une auteure que j'aime beaucoup, qui a écrit un roman qui s'appelle Délivrance, Toni Morrison, et dans lequel il est question de la naissance. Et c'est vrai que cet album est traversé aussi par cette thématique. J'ai fait une chanson qui s'appelle 9 mois. Je suis devenue maman pendant que j'étais en train de composer cet album. Et donc il y a aussi
Félicitations.
Merci beaucoup. Une petite référence à ça. Et puis, bah, du coup, l'autre question, c'était par rapport à Arabofolie. Bah,
Arabofolie, justement, puisque pour que le public puisse venir vous voir, ce qui reste de votre participation.
Alors oui, ma participation s'est décalée au dimanche 8 novembre à 17h. Donc, on sera tout dans les règles Covid. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. C'était complet, mais on a déplacé dans la salle du bac qui est plus grande, donc il reste quelques places. C'est en prêt libre, donc il suffit de s'inscrire sur le site de l'IMA. Il faut faire vite parce que, voilà. Et ce sera donc dimanche à 8 à 17h. Et voilà, vous êtes les bienvenus. J'ai hâte de retrouver la scène parce que c'est une des rares dates maintenues et c'est un très beau festival qui s'est battu pour maintenir cette programmation qui donne la parole à des artistes du monde arabe qui ont des couleurs et des singularités différentes.
En tout cas, Nawal Karim, Ben Karim, bravo pour le travail fourni. Et enfin, le public, il est avisé. Donc, le 8 novembre à 17h du côté de l'Institut du Monde Arabe. Et au plaisir et la joie de vous retrouver. On va écouter juste après la pub, l'Absan. Hein, donc, et puis quelques titres, n'est-ce pas?
Merci beaucoup.
À très bientôt, merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Je sourds aux artifices feux.